Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce sont les mystères de l'histoire que Franck Ferrand nous raconte pendant toute cette semaine spéciale sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors hier, nous avons évoqué la survie possible de Louis XVII. Demain, nous nous pencherons sur la fausse mort d'Alexandre Ier de Russie. Mais entre ces deux grands classiques, si je puis dire, c'est un sujet tout à fait original que je vous propose aujourd'hui. Grâce aux intuitions d'un artiste contemporain, nous sommes en effet peut-être en mesure d'élucider la plus vieille énigme de l'humanité.
La plus vieille énigme de l'humanité, c'est justement le titre d'un petit livre qui vient d'être publié.
Oui, un petit livre par l'épaisseur, mais dont je ne doute pas qu'il devienne un grand livre par l'importance. Vous savez, en histoire, les grandes intuitions de celles qui font beaucoup avancer les choses ne sont pas fréquentes. Pour tout vous dire, c'est mon ravissement à la lecture de cet ouvrage qui m'a donné l'idée et l'envie de programmer toute cette semaine spéciale. Ce ravissement, eh bien, j'espère vous le faire partager dans les minutes qui viennent.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Que c'est en voyant tomber une pomme que Newton a eu l'intuition de la gravitation universelle. Eh bien, c'est en venant border un soir son fils de 8 ans que Bertrand David a eu l'intuition qui devait changer sa vie et peut-être, c'est en tout cas ce que je lui souhaite, la conception que se fait la communauté savante des représentations préhistoriques. Vous savez, nous connaissons tous depuis l'enfance, nous admirons tous depuis les bancs de l'école ces chevaux pansus, profilés, ces taureaux aux longues cornes, ces mammouths, ces rhinocéros plus vrais que nature et ces rennes et ces bouquetins et ces bisons et ces fauves même qui, peints, dessinés ou gravés, ornent depuis la nuit des temps, je devrais dire la nuit de la nuit des temps, les parois mystérieuses d'Altamira, de Lascaux, des grottes Chauvet ou Cosquer. L'art pariétal, comme on l'appelle, remonte à près de 20 000 ans. Vous savez que personnellement, je ne crois pas du tout à la datation sensationnaliste qui voudrait faire remonter plus loin encore dans les temps les chefs-d'œuvre de la grotte Chauvet. Enfin, ça c'est un autre sujet, ce serait une autre énigme. Il nous suffira de dire que toutes ces représentations animalières remontent au paléolithique supérieur, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une époque qui va de 35 000 à 10 000 ans avant notre ère. Les artistes qui les ont dessinées, peintes ou gravées sont sans aucun doute les plus anciens artistes possibles. Rien que de dire ça, ça me donne des frissons. J'espère que c'est votre cas également. Or, tous ces chefs-d'œuvre, dont pour le moment nous n'avons retrouvé qu'une part infime sans doute, combien de fresques fabuleuses dorment encore dans des grottes perdues, inexplorées, tous ces trésors d'art pariétal ne vont pas sans poser de nombreuses questions. Alors je vous en propose quelques-unes. Pourquoi seulement des animaux d'abord, si l'on accepte les contours de mains que l'on peut trouver parfois et quelques très très rares exemples pour le reste, essentiellement pas d'humains en pied, pas de végétaux, pas de reliefs, pas de décors. Pourquoi ces animaux sont-ils presque toujours dupliqués, répétés? Et pourquoi très souvent se chevauchent-ils, débordent-ils les uns sur les autres? Vous avez la tête d'une vache dans les pattes d'un cheval. Pourquoi ces figures animales sont-elles toujours représentées de profil, de la même façon d'ailleurs, et comme saisies dans une sorte de mouvement suspendu? Pourquoi ce contraste entre un contour harmonieux, souvent même parfait, et cela, quelles que soient les aspérités et les accidents de la paroi rocheuse, ce contraste donc entre un beau contour et un placement nettement plus fantaisiste des yeux, des oreilles, voire des taches du pelage? Et puis, pourquoi cet emplacement souvent inaccessible des œuvres au sein des grottes elles-mêmes qui sont difficiles d'accès? Depuis quelques semaines, je dis bien quelques semaines pour que vous mesuriez à quel point nous vous donnons la primeur des choses. Ces questions et pas mal d'autres, vous allez voir, ont enfin trouvé des réponses. Je n'ai pas la légitimité, évidemment, pour affirmer que ces réponses sont les bonnes. Je sais néanmoins, et d'ailleurs je sais qu'elles sont très contestées par pas mal de personnalités, qui regrettent peut-être de n'avoir pas eu depuis longtemps l'idée ou l'intuition géniale de Bertrand David. Mais en tout cas, ce sont des réponses convaincantes, ou plutôt, c'est une réponse convaincante. Car ce qu'il y a de magnifique dans l'idée que nous allons maintenant vous exposer, c'est qu'à elle seule, elle apporte une réponse plausible à toutes ces questions en même temps. À propos des peintures et des gravures rupestres, nous allons donc, dans l'heure qui vient, tâcher de répondre à la question du « comment ?» et cela nous donnera des éléments pour envisager la question plus fondamentale et plus passionnante encore, du « pourquoi ?».
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec votre invité Franck sur Europe 1, Jean-Jacques Lefrère est historien des lettres et auteur avec Bertrand David de la plus vieille énigme de l'humanité. On en parlait tout à l'heure, elle est disponible chez Fayard.
Bonjour Jean-Jacques Lefrère.
Bonjour.
Alors habituellement, vous venez soit ici ou soit ailleurs parler de l'affaire Corneille-Molière, qui est un de vos grands sujets. Vous avez d'ailleurs publié avec Monsieur Goujon un très beau livre sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez prêté votre connaissance historique, votre méthode, votre capacité à aborder un sujet de ce genre à quelqu'un qui, lui, n'avait pas ces éléments-là. Expliquez-nous comment s'est faite cette collaboration avec Bertrand David.
Alors, je connaissais Bertrand David de longue date, puisqu'il est artiste, et je l'avais sollicité pour des illustrations, pour des revues dont je m'occupais, comme les Cahiers d'Autréamont ou la revue Histoire littéraire. Et c'était il y a à peu près 20-25 ans. Et il y a à peu près un an, il me contacte en me disant « Voilà, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art. Ça, je le savais, je suis artiste, etc. Et je travaille sur les dessins des grottes préhistoriques que je n'explique pas bien dans l'histoire de l'art. Alors je lui dis, voyons ce qu'il en est. Et donc, on s'est rencontrés, il m'a présenté le dossier, l'hypothèse, les éléments. Et ma réaction a été d'ailleurs celle qu'ont aujourd'hui d'ailleurs les préhistoriens eux-mêmes. C'est-à-dire au début, on est surpris. Parce qu'une explication finalement aussi simple, pourquoi a-t-il fallu presque un siècle pour la trouver.
La comprendre, c'est ça.
Et surtout, explique-t-elle l'ensemble. Enfin, je suis passé par une phase de, comment dire, de scepticisme réfléchi, mais je me suis dit, l'explication, quand il y a sur cette énigme des dizaines d'explications, c'est qu'aucune n'est valable. Et une qui arrive et qui résout l'ensemble des questions posées par les préhistoriens eux-mêmes mérite d'être étudiée.
C'est pour ça
que j'ai travaillé avec lui, justement, pour apporter la méthodologie scientifique, mais il avait déjà eu l'intuition de départ.
Bien sûr. Alors, si j'ose cette image, on peut dire que cette intuition a été lumineuse. Alors, pour nous expliquer cette intuition et pour expliquer, en gros, en quelques mots, l'idée qu'a eu Bertrand David, le mieux c'est de l'avoir au téléphone, parce qu'il n'a pas pu être avec nous ici dans ce studio, mais nous l'avons au téléphone. Bonjour Bertrand David.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous ce qui se passe. Un jour, vous montez dire bonsoir à votre fils qui a 8 ans, il y a une veilleuse dans sa chambre, et là d'un seul coup, vous avez la révélation.
Oui, alors il faut savoir quand même que ça faisait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années que je m'étais penché sur ces fascinants dessins qu'on trouve à Chauvet, à Lascaux, dans de nombreuses autres grottes. Et qu'au départ, c'était une idée un petit peu simple. Je cherchais une idée de scénario pour essayer de trouver une approche un peu originale, un peu fantaisiste de l'examen de ces dessins. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment lu tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Et l'idée me travaillait en disant, il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui est commun à toutes ces représentations. Et effectivement, un soir, en montant border mon fils, bien sur le bord de sa table de chevet, après quelques moments complices, on discute, au moment d'éteindre la lumière, je regarde. Sur le bord de cette table de chevet, il y a des petites figurines en plastique, hein, comme il en fait souvent dans les chambres.
Un dinosaure en plastique, dites-vous.
Hein. Oui, un dinosaure. Un dinosaure ou un diplodocus, quelque chose comme ça. Et l'ombre de la petite figurine en plastique, la lampe de chevet était projetée un peu vers le mur, se projetait sur la paroi d'en face, un grand mur blanc, avec une taille démesurée et avec un contour parfait. Donc, d'un seul coup, j'ai eu une espèce de vision. Au départ, je me suis dit, non, c'est idiot, ça peut pas être ça. Il y avait d'autres figurines qui traînaient sur le sol, notamment des petits chevaux. Je les ai positionnées devant la lampe, et là, pour moi, c'est apparu comme évident que la projection d'ombre portée sur une paroi, même sur une paroi tourmentée, permet de fixer sur le mur quelque part une image réaliste, et pourquoi pas de la contourner à part le dessin.
Alors ça, c'est... Ça, c'est l'intuition initiale, mais évidemment, vous avez ensuite mené des expériences, c'est-à-dire que vous avez pris des petites figurines qui ressemblaient aux dessins préhistoriques, hein, et vous les avez projetées, et vous avez sur toutes sortes de supports, parfois très irréguliers, très peu propices, vous avez réussi à dessiner des contours parfaits de taureaux, de bisons, de mammouths, c'est ça qui est extraordinaire.
Entre les deux, il y a quand même une étape intermédiaire, c'est-à-dire que j'avais écarté un peu l'idée en disant, bon, c'est une idée amusante, mais il aurait fallu que que les hommes préhistoriques disposent de petites figurines.
Oui, voilà.
Et en ouvrant des encyclopédies de la préhistoire un peu anciennes, je me suis aperçu que des figurines de ce style-là avaient été retrouvées, non pas dans des grottes orvées, mais dans des grottes de la même époque, et qu'il en existait,
c'est-à-dire que
sous forme de fragments, évidemment,
on avait
existait des dizaines. Quoi.
On avait retrouvé ces figurines de projection, oui. Mais on avait cru que c'était des amulettes, simplement, hein, ou des petits...
Elles avaient plusieurs fonctions, mais, voilà. mais pourquoi pas... Outre celle de la projection, peut-être, ça avait-elle d'autres fonctions, hein, de porte-bonheur, de carte d'identité, de ce qu'on veut. En tout cas, elle se prête parfaitement bien au phénomène de la projection qui permet de dessiner à tous les formats que l'on souhaite.
Ce que vous avez découvert vous-même, c'est qu'il faut évidemment que le projecteur lui-même, la lampe, oui. soit adaptée. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques en question devaient disposer d'une lampe d'un certain niveau déjà.
Alors, on a trouvé dans des grottes, à Lascaux par exemple, un brûloir en grès, hein, en grès rose. On dispose de pas énormément d'éléments sur les modes d'éclairage qu'ils avaient. On a des foyers, on a des torches, des restes de mouchage de torches, qui laissent entendre qu'ils avaient quand même à leur disposition une grande gamme de d'éclairage. Alors, généralement, c'était de la graisse animale ou de la graisse peut-être végétale qui pouvait être utilisée. Mais les quelques essais que j'ai faits de mon côté avec différents types de lampes m'ont montré qu'on pouvait varier très facilement l'intensité de la flamme et la taille du dessin à volonté, pratiquement.
Merci beaucoup, Bertrand David, de nous avoir fait partager cette intuition que vous avez eue. Comme l'œuf de Christophe Colomb, c'est tout simple, le tout était d'y penser.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de Jean-Jacques Hano, La Guerre du Feu, car je vous le rappelle, dans le cadre des mystères de l'histoire, nous révélons les secrets des peintures rupestres.
Et oui, c'est, vous savez, ces extraordinaires peintures ou gravures ou dessins, parfois, au charbon, qui figurent sur les parois de ces grottes extraordinaires à Altamira, à Pechmerle, évidemment, à Fontgaume, etc. Toutes ces extraordinaires œuvres d'art, si l'on ose dire, on ne sait pas trop comment les qualifier encore. Oui, c'est ça, on dit aujourd'hui œuvre d'art. Ouais. En tout cas, ces représentations qui sont presque toutes des représentations animales, qui se ressemblent de façon incroyable dans des régions pourtant très distantes et très différentes, et qui ont l'air finalement de procéder toutes de la même technique. Et cette technique, c'est tout récent. Alors, ce qu'il faut dire, parce que vous avez dit tout à l'heure que depuis plus d'un siècle, personne n'y avait pensé. On dit depuis plus d'un siècle parce que ces grottes, elles ont été découvertes tardivement.
Altamira
faut le dire,
a été découvert à la fin du 19e siècle. A mis pratiquement presque 10-15 ans avant d'être reconnu parce qu'on s'est dit c'est pas possible que les hommes préhistoriques aient fait ça.
Quant à celle qu'on appelle la chapelle Sixtine de la préhistoire, Lascaux, elle n'a été découverte qu'en 1940. Je raconterai ça tout à l'heure.
Tout à fait, oui. Non, je veux dire, c'est l'art pariétal n'est de connaissances assez récentes. Un siècle, c'est très peu. Et au début, d'ailleurs, les préhistoriens de l'époque n'ont pas cru à l'authenticité de ces dessins.
Oui, on a cru que c'était
des peintres du Moyen-Âge qui avaient fait ça, etc. Il a fallu la découverte d'autres grottes pour montrer que, à travers le temps et surtout la distance, comme vous l'avez dit, ces grottes étaient absolument authentiques.
Alors, je rouvre pour la fermer aussitôt, la petite parenthèse de la grotte Chauvet. On a déjà consacré plusieurs émissions ici au sujet. Évidemment, la communauté scientifique aujourd'hui, en tout cas en France, affirme que les peintures de la grotte Chauvet sont extrêmement anciennes. Personnellement, je n'y crois pas et je suis beaucoup plus de l'avis d'un certain nombre de spécialistes anglais et américains sur le sujet. Mais fermons la parenthèse, nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans ce débat. Ouais. L'essentiel, c'est de savoir comment on procédait. Alors, ça c'est très étonnant, Bertrand David vient de nous le raconter, mais il faut que vous le redisiez pour les auditeurs, soit qui prendraient l'émission en cours, soit qui n'auraient pas tout à fait compris
C'est d'assister à la scène, finalement. Imaginons ces hommes préhistoriques, qui étaient des hommes comme nous, je veux dire, les Cro-Magnons avaient notre intelligence, notre savoir-faire là-dessus, donc ils avaient des capacités imaginatives, tout ce que l'on veut. Et donc, imaginons l'homme préhistorique qui rentre dans une caverne, qu'est-ce qu'il a ? Il a une torche, une petite lampe, graisse, huile, etc. Et qu'est-ce qu'il voit sur les murs de ces cavernes profondes, froides ? Il voit des grandes ombres. Et avec lui, il a pu amener ce qui pouvait être des insignes de clan, c'est-à-dire des figurines qui montraient tel animal, un bison, un mammouth, etc. Et il lui suffit de poser le mammouth sur une pierre, de mettre à côté la petite lampe de graisse, et qu'est-ce qu'il voit sur le mur ? Un immense mammouth dont il ne lui reste qu'en quelques secondes qu'à dessiner le contour parfait. ce qui explique la multiplicité de ses dessins et leur réalisme absolu. Et après, il coloriera l'intérieur avec des moyens qu'il avait. Il en fera une véritable œuvre d'art. Et surtout, le procédé lui permet finalement, ce qui a été une énigme pour les préhistoriens, de faire des dessins superposés. Un artiste aujourd'hui vous dirait qu'il a besoin de voir son support pour dessiner. Là, nul besoin, puisqu'on ne dessine qu'une ombre. Que le mur soit rempli de multiples dessins, aucune importance, on peut en rajouter dessus. Alors, si la lampe ou la figurine bouge un petit peu, ça va se ressentir sur l'ombre et donc sur le contour, ce qui explique ces ruptures de dessin que l'on voit parfois sur certaines représentations animales. Toutes les énigmes soulevées par les préhistoriens se trouvent expliquées par ce procédé simple.
Il faut quand même une grande habileté pour suivre le tracé, le contour. Hein,
ça... Pas tellement. Non, moi qui suis d'une nullité absolument admirable en dessin, j'ai fait l'expérience. Et si vous me dites de dessiner un éléphant sur ce mur d'Europe 1, je vous ferai un petit gribouillis d'enfant de 5 ans. Si nous plongeons dessus dans le noir...
Si on fait ça. Oui, on mettra bien.
Oui, enfin je ne le ferai pas. Mais si nous plongeons dessus dans le noir et si j'ai une petite figurine d'éléphant avec une lampe de poche, en quelques secondes, je vous fais un profil parfait. Le procédé est très simple.
Ce qui est très amusant, hein, c'est qu'il y a quelques jours seulement, nous avons consacré ici une émission aux silhouettes, vous savez, et à la profession de silhouetteur au 18e et au 19e siècle, qui procédait exactement de la même façon.
Et d'ailleurs, la légende du dessin, de l'invention du dessin, vient de là, vient de la projection de l'ombre et du décalcage du profil de l'ombre.
Alors j'imagine que quand Bertrand David fait cette découverte, il se dit qu'il n'est pas le premier à y avoir pensé, que certains ont dû émettre au moins l'hypothèse, donc il se plonge dans la doc.
On a mis presque 6 mois de lecture et dans des revues parfois assez savantes pour voir si, premièrement, l'hypothèse n'avait pas été soulevée, et si ça avait été le cas, est-ce qu'elle avait été admise ou pas? Et ce qui est rassurant un peu dans les réactions des préhistoriens, on va dire un peu académiques d'aujourd'hui, qui sont pas tous favorables sur l'idée, parce qu'on reparlera de ce qu'elles remettent en cause, mais au moins, ça, on est sûr qu'aujourd'hui, l'idée n'a jamais été émise. Peut-être parce qu'elle est trop simple, peut-être parce que les préhistoriens étaient trop près, trop fascinés par ces images, et que ce ne sont pas des artistes. Il fallait une formation d'artiste, comme Bertrand David, pour voir l'impossibilité de faire de tels dessins. On ne sait pas, par exemple, dessiner un cheval de 2 mètres à l'envers sur un plafond de surface irrégulière. On ne sait pas le faire. On ne sait pas dessiner à main levée un éléphant au profil parfait sur une surface très irrégulière, qu'à distance, il apparaît tout à fait homogène.
Vous dites à l'envers parce que certaines de ces figures ont des positions étranges.
Dans une des grottes, par exemple, il y a un cheval qui est complètement renversé, au point que les préhistoriens disaient « Oh, ben c'est sûrement, ça illustre une technique de chasse, on précipitait les chevaux du haut de la falaise ». Non, c'est que l'ombre s'était positionnée de telle manière et qu'une fois qu'elle s'est fixée, peu importe que la figurine soit debout, droit, à l'envers, etc., l'ombre préhistorique traçait le profil.
Alors ça, c'est quand même, c'est tout simple hein, quand on le dit, mais ça permet d'expliquer énormément de choses. On va y venir dans le détail maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que des sites ornés, rien qu'en France, il y en a quand même des dizaines, il y en a près de 200 au total. Hein, parce qu'on cite toujours Lascaux, mais il y en a bien d'autres.
On a à peu près 200 grottes ornées, beaucoup sont dans le sud de la France et dans le nord de l'Espagne.
Et alors, quand on va regarder point par point toutes ces grottes, tous ces décors, etc., on se rend compte que, à 100%, c'est tout à fait, ça correspond à une idée de projection d'ombre. On y vient dans un instant et on va entrer bien sûr dans le détail de l'affaire.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait de la bande originale du film documentaire de Jacques Malaterre, L'Odyssée de l'espèce, Franck.
Et oui, puisque nous sommes à la préhistoire, alors là on est au paléolithique supérieur, hein, aux alentours de 20 000 ans avant notre ère, un petit peu moins peut-être, dans toutes ces grottes nombreuses qui sont décorées d'animaux, et ces animaux donc seraient tout simplement réalisés grâce à des projections d'ombre à partir de petites figurines. Et ces figurines, comme nous le disait Bertrand David au téléphone, on en a retrouvé un certain nombre.
On en a retrouvé quelques-unes qui datent de la même époque.
Alors ce qui est intéressant...
Sur le même territoire, il y en a... elles sont bien sûr en très mauvais état, dégradées. On a même retrouvé au fond d'une grotte des figurines en argile qui n'avaient pas encore été extraites.
Ah oui. Et alors, est-ce que ces figurines, on a pu en faire correspondre quelques-unes à des modèles sur le mur? Ça, ce serait l'idéal, ce serait la démonstration totale.
Ce serait une chance, un hasard absolument tellement extraordinaire que telle figurine correspond à tel dessin. Mais leur nombre est suffisamment grand et surtout leur fonction était assez inexpliquée pour justement faire un lien avec ces dessins.
Alors ça pourrait, on dit que cette hypothèse permet de répondre à bien des questions. Ça permet notamment de répondre à la grande et fondamentale question de la transmission du savoir-faire.
Ouais.
C'est-à-dire que sur des zones géographiques éloignées pour les moyens de
des milliers de kilomètres,
colossal. Et d'autre part, sur des périodes très étendues, plus ou moins, en tout cas, étendues sur plusieurs millénaires. Le même savoir-faire se retrouve. Et pour que ce savoir-faire se transmette, il faut qu'il soit simple. En l'occurrence, c'est le cas.
Alors, c'était les préhistoriens avaient dû échafauder une thèse, parce que quand même, la question que vous posez, ils se l'étaient posée. Et ils avaient conçu l'idée qu'il y ait eu des sortes de Léonard de Vinci de la préhistoire, avec une sorte d'école où certains élèves auraient transmis ça, etc.
On avait plaqué nos schémas.
Alors il aurait fallu quelques milliers de Léonard de Vinci qui se transmettent ça, qui voyagent dans le temps, etc. Bon, l'hypothèse n'allait pas trop. Ensuite, l'hypothèse la plus récente, mais qui elle-même est contestée par une bonne partie de la communauté préhistorienne, c'est de dire que c'était des chamans en transe qui auraient mis ces images mentales. Bref, la transmission n'était pas expliquée. Tandis que là, le procédé que je vous ai expliqué, vous pouvez le transmettre, l'expliquer à quelqu'un d'autre.
Très
là,
facile.
On vient de l'expliquer à quelques milliers d'auditeurs, donc je veux dire, ils peuvent même le transmettre. Donc il fallait que ce soit un procédé simple, aisément reproductible et qui traverse le temps. Et c'est pas du tout déprécier ces hommes préhistoriques, au contraire, ils ont eu une sorte de génie d'avoir utilisé ce procédé, d'avoir su le transmettre. On ne leur reprocherait pas aujourd'hui d'avoir inventé l'arc et les flèches, par exemple. C'est un procédé simple aussi qui a traversé le temps.
Oui, vous faites bien de le préciser parce qu'évidemment, l'une des critiques parmi les nombreuses, j'imagine, qui vont vous être adressées, ça va être celle-là. On va dire, mais alors vous dévalorisez le savoir-faire, le talent propre des hommes préhistoriques.
Au contraire, pour moi, ces images qu'ils ont mises là-dedans, et je crois que Bertrand David a exactement le même jugement là-dessus, ça les rend beaucoup plus proches de nous, finalement. Plutôt que de concevoir des Léonard de Vinci mystérieux, des artistes géniaux, etc., rarissimes, etc. Là, c'est tout simplement des hommes comme nous qui ont su faire grâce à un procédé simple, mais très ingénieux, ces dessins que nous trouvons encore aujourd'hui admirables.
Alors un de nos auditeurs nous demande via Facebook, mais comment stabiliser les flammes, puisque seule une flamme stable permet d'avoir un contour fixe?
Alors il y a une réponse très simple, et qui explique d'ailleurs que les dessins se voient tous au fin fond des grottes et jamais à la surface, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun souffle, aucun courant d'air. Et Bertrand David a fait des expériences in situ, si je puis dire, avec des lampes. Alors, c'est très particulier, on pose la figurine, on pose la lampe à côté, il y a un temps où l'ombre se cherche. Et puis à un moment donné, la flamme devient stable.
Elle se fixe.
Elle se fixe et l'ombre devient tout à fait silhouettable sur la paroi. Mais effectivement, si vous le faites près de l'entrée, il y a des courants d'air, ça ne se passe pas. Et ce qui répond aussi à une question des préhistoriens, pourquoi ont-ils délaissé des murs réguliers, lisses, près de l'entrée, pour aller au fin fond des grottes en rampant dans des surfaces très irrégulières?
Il y a une deuxième réponse à cette question-là, mais nous y viendrons tout à l'heure, puisqu'elle ne relève plus du comment faire, mais du pourquoi l'avoir réalisé. Ça, c'est une grande question. Gardons ça pour la fin. Alors, on a compris maintenant comment on procédait, y compris avec cette histoire de projection et de lampe. On a compris pourquoi les figures donnent l'impression de flotter, pourquoi elles peuvent se superposer, pourquoi elles se situent donc assez loin dans les grottes. Il y a une chose que l'on n'a pas développée, c'est l'intérieur de la figure. C'est-à-dire que, ça c'est assez frappant, sur un certain nombre de dessins préhistoriques, on a par exemple le contour d'une vache, c'est magnifique, on voit même très bien ses cornes et tout ça, et d'une élégance
admirable,
parfaite. Et puis l'œil est complètement mal placé au milieu du museau.
Ce qu'on appelle les détails internes déçoivent.
Ouais.
On se dit des artistes qui auraient eu une telle maîtrise du profil de l'animal auraient donc raté, alors pas seulement d'ailleurs l'intérieur de l'animal, aussi le rattachement des pattes ou de la queue, c'est flou, c'est mal fichu. On a l'impression qu'ils avaient parfaitement réussi le profil et médiocrement fait le reste des détails. Là aussi ça s'explique, le procédé leur permettait le profil, la silhouette, mais pas de dessiner les détails intérieurs qu'il faisait ensuite à la main directement, d'où cette maladresse relative de ces dessins.
Alors, on en parle, on le sous-entend depuis le début de l'émission, évidemment, c'est un peu un pavé que vous venez de jeter dans la mare des préhistoriens. Un certain nombre d'entre eux ne doivent pas être très contents parce qu'il y a un problème avec tout ça. C'est que ça remet en cause à peu près tout ce qu'on croyait savoir depuis l'abbé Breuil et depuis un certain nombre d'autres grands spécialistes, je pense à le roi Gourand, etc. Et ça veut dire que tous les ouvrages qu'on a pu écrire, et Dieu sait qu'il y en a, qui ont été publiés sur le sujet, toutes les thèses, tout ce qui existe, tout l'appareil critique, toute l'invraisemblance semblable masse de publications sur le sujet depuis 150 ans, bah, tout ça vole un peu en éclats.
Ajoutez-y les travaux en cours, les carrières.
Et les films.
Et les films, etc. Finalement, vous définissez l'enjeu du sujet et qui explique que les tout premiers préhistoriens qui ont réagi à chaud dès que le livre a paru ont été très négatifs, mais avec des réactions curieuses. Nous, on espérait des arguments, même négatifs, pour essayer de discuter. Ça a été, en gros, je n'y crois pas. Ce qui n'est vraiment pas très scientifique comme argument. Et aujourd'hui, bon, le débat ne s'instaure pas. Alors, peut-être certains préhistoriens vont réagir en positif ou en négatif. On a déjà des contacts intéressants parce que les historiens, on va dire un peu d'une autre génération, sont d'emblée hostiles.
Fermés, oui.
En revanche, on vient d'être contactés il n'y a pas
ceux
très longtemps.
Ceux qui n'ont pas encore trop publié sont plus ouverts.
Ou qui préfèrent tout ménager. Quoi. Et à ce moment-là, on a déjà eu des contacts. On dit, mais on pourrait, à partir de ça, faire des travaux en trois dimensions, voir si la figurine permet de... Ou à partir même du dessin, on arrivera à reconstituer en trois dimensions la figurine. Donc, bon, je pense que l'idée va faire son chemin. Moi, je suis scientifique de formation et je travaille sur le sang.
Vous êtes professeur en médecine, il faut préciser.
Oui. Et quelqu'un viendrait me dire, bah, écoutez, tout ce que vous faites depuis des années, vous publiez sur tel sujet, etc. Bah, y a deux inconnus, non médecins, non spécialistes, qui viennent d'amener une théorie qui rend caduque tous vos travaux. Bah, je dirais, je ne serais pas très content d'abord. Mais bon, j'espère que je passerai quand même sur le temps de la réflexion, me disant, bah, après tout, saisissons l'hypothèse nouvelle et travaillons ensemble.
Ça viendra, mais il faudra sans doute, comme très souvent, il faudra du temps. Alors, évidemment, nous avons tous Lascaux à l'esprit, hein, c'est la plus célèbre des grottes ornées. Je vais vous raconter dans un instant la découverte de cette grotte de Lascaux et évidemment l'impact considérable que cette découverte a pu avoir sur la conscience collective. On est là au milieu du XXe siècle.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous fait revivre maintenant sur Europe 1 la découverte de la grotte de Lascaux.
Nous sommes en septembre 1940, autant vous dire que nous sommes dans les tout premiers jours de la Seconde Guerre mondiale. Et un jeudi, ça n'est pas neutre, parce qu'en fait ce sont quatre petits garçons qui vont faire cette découverte. Quatre garçons du village de Montignac en Dordogne qui se promènent sur les plateaux qui dominent à cet endroit la Vézère. Et à un moment, ils se rendent compte que leur chien a disparu. Alors, comme c'est une région de fort braconnage et qu'on est habitué à tendre partout des collets pour les lièvres, et on a toujours peur que les chiens se prennent dans un collet. Vous savez, qu'ils s'étranglent. Donc, on part à la recherche du chien et d'un seul coup, les enfants entendent des aboiements qui viennent d'en bas. Alors, ils cherchent, ils écartent les buissons, ils descendent dans une espèce de couloir rocheux qui, après avoir été comme un goulot, finit par s'élargir. Et puis, d'un seul coup, alors, ils ont des allumettes parce qu'on entend le chien qui aboie, mais il est dans le noir. Donc, ils allument les allumettes et d'un seul coup, se mettent à danser sur les parois des cerfs, des chevaux, des taureaux, des choses extraordinaires. Certains ont une taille gigantesque, ils ont l'air animés, ces animaux, d'une sorte de vitalité extraordinaire. Des peintures si fraîches, avec des rouges si vifs, des noirs si nets, des jaunes aussi éclatants qu'on a l'impression qu'elles auraient été peintes il y a quelques jours. Ils sont émerveillés, ces enfants, et en même temps, mettez-vous à leur place, ils sont un peu effrayés par ce qu'ils viennent de découvrir. Ils s'en vont prévenir l'instituteur, et oui, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là, on prévient soit l'instituteur, soit le curé, et en l'occurrence, l'instituteur va prévenir, lui, les autorités culturelles locales. Et qui alerte-t-on? Bien entendu, les services des Beaux-Arts vont informer l'abbé Breuil, qui à l'époque est, si j'ose dire, le pape de la préhistoire. Immédiatement, des mesures sont prises pour aménager la grotte, pour la protéger, pour rendre son accès aussi un peu plus facile, bien entendu. Et ce que Fernand Vindels va appeler la chapelle Sixtine de la préhistoire va être de plus en plus connue dans l'opinion. En quelques années, nous dit Marcel Brion, la renommée de Lascaux, le bruit qui s'est fait autour de cette découverte, l'exceptionnelle beauté aussi des peintures et le fait qu'elles soient d'accès aisé ont éveillé l'attention générale sur l'art préhistorique. On peut dire que, d'un seul coup, le grand public vient de prendre conscience de l'existence, tout simplement, de cet art préhistorique. Alors ça, décidément, vous allez dire qu'aujourd'hui on détruit les mythes, mais ça c'est pour la légende. Parce qu'en vérité, en 1990, Jean Marsal, qui était l'un des quatre jeunes découvreurs et qui était devenu un vieux monsieur, bien sûr, va dire à André Thénault, qui écrivait un ouvrage dans Historia, qui écrivait un article dans Historia à ce sujet, il va lui dire « J'aimerais vous demander une preuve d'amitié. Lorsque je ne serai plus là et que vous parlerez encore de Lascaux, je voudrais que vous précisiez que, contrairement à ce qui a été dit ou écrit, ce n'est pas par hasard que nous nous avons découvert cette grotte. Ce n'est pas en suivant un chien. Ce n'est pas non plus en jouant au ballon que celui-ci aurait roulé dans un trou. » Ça, c'est ce que tout le monde a toujours raconté, hein. « Nous connaissions l'existence d'une cavité. Nous étions habitués à la présence de grottes dans la région et nous avions décidé de nous-mêmes d'aller l'explorer, cette grotte, en cachette de nos parents, bien sûr. C'était en outre un jeudi de septembre, donc double raison. Jeudi, c'était le jour de... Maintenant, c'est le mercredi que les enfants n'ont pas d'école, mais à l'époque, c'était le jeudi. Donc, double raison pour ne pas nous accuser d'avoir fait l'école buissonnière, ainsi qu'on peut le lire dans tous les articles. » Voilà encore une légende qui vole en éclats. Les enfants savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils allaient découvrir la grotte parce qu'ils savaient qu'elle existait, tout simplement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient y découvrir les extraordinaires représentations, bien sûr. La grotte sera, ça c'est incontestable et historique, elle est classée le 27 décembre 1940, ouverte au public. Alors évidemment, pendant la guerre, on ne fait pas grand-chose. Et puis à la sortie de la guerre, il y a de gros travaux, d'études, c'est réservé aux spécialistes, bien sûr. Et on ouvre la grotte au public le 14 juillet 1948. Il a fallu là de nouveau établir bien sûr des accès. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que chaque année, dans les années 50 et même encore au début des années 60, chaque année, ce sont 50 000, 60 000 personnes qui visitent Lascaux. Ce qui fait que vous avez sans doute dans votre famille ou dans vos amis des gens qui ont visité Lascaux. Évidemment, aujourd'hui, c'est devenu très, très difficile. Il faut, si je puis dire, avoir le bras long pour avoir le droit d'y entrer, parce qu'évidemment, on s'est rendu compte que les bactéries proliféraient, que des algues vertes apportées involontairement constituaient pour les œuvres préhistoriques un danger majeur. Et l'on sait qu'actuellement encore, à l'heure où je vous parle, la grotte est, du fait d'un nettoyage assez mal fait il y a quelques années, elle est aujourd'hui encore en grand danger. En 1963, le ministre des Affaires culturelles, André Malraux, va donc décider de fermer cette grotte au public. Et vous savez que pendant longtemps, ça va être une frustration jusqu'à ce qu'on construise. Elle sera ouverte le 18 juillet 1983, cette espèce de Lascaux bis, hein, une sorte de fac-similé qui permet de visiter la grotte comme si on y était. Mais évidemment, la grotte qu'on visite est un faux. Elle a été faite par des architectes très, très, très pointus, hein, qui ont réussi à donner l'impression de la grotte, et notamment sous la conduite de la fresquiste Monique Pétral, à laquelle il faut rendre hommage parce qu'elle a fait un très, très beau travail. Vous savez que cette grotte de Lascaux, elle fait l'objet en ce moment d'une très grande exposition internationale qu'on a pu voir à Bordeaux jusqu'au milieu du mois de janvier dernier, et qui aujourd'hui est partie pour les États-Unis. On peut la voir à Chicago. C'est fou ce que les chevaux de Lascaux peuvent voyager.
Extrait de l'Odyssée de l'espèce sur Europe 1, une musique composée par Yvan Cassard.
L'abbé Breuil, évidemment, a été le premier grand observateur, enfin l'un des premiers grands observateurs, pour être tout à fait honnête, de cette grotte de Lascaux. Et très vite, alors il est là à scruter les mammouths, les bisons, le rhinocéros Ticorinus, le cerf, les cerfs Elaf, etc. Et il se rend compte qu'on peut reconnaître à Lascaux des familles de figures, en quelque sorte, qui doivent appartenir probablement à des époques différentes, en tout cas à des écoles différentes, ça c'est certain. Il y a des familles plastiques, il y a aussi une exécution technique qui n'est pas toujours tout à fait la même. Donc l'abbé Breuil va différencier de cette façon 8 générations d'artistes, si l'on peut dire, dont chacune a donc sa façon de peindre, sa manière aussi de voir et de représenter les animaux. Alors, on va bien sûr très vite se poser la question. Je cite Marcel Brion, ces chefs-d'œuvre d'art animalier que sont le grand taureau noir, long de plus de 5 mètres de la grande salle, le cheval chinois du diverticule axial, ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec les statuettes et les peintures de la dynastie Tang, les bêtes monumentales si émouvantes de la salle des taureaux, les bisons et les chevaux de la grande nef, tout cela est presque sans équivalent dans l'art universel. Cela paraît pris sur le vif. Ils paraissent, dit-il, ces animaux, ressusciter des images vivantes et vivantes d'une vie fantastique à la fois réelle et surnaturelle. Ils sont des animaux, ils sont les animaux dont ils conjuraient les âmes au moyen des représentations. Finalement, très très vite va naître l'idée que l'on aurait affaire à des sortes de témoignages d'anciens rites propitiatoires, une sorte de religion chamanique qui aurait, à travers les représentations figurant sur les parois, essayé, sinon d'apprivoiser, du moins de se concilier les esprits naturels. C'est l'idée majeure, c'est celle qui va dominer, et celle qui va dominer au point qu'aujourd'hui encore, il est extrêmement difficile d'évoquer une autre idée. Alors, il y a aussi la question de ce qu'on appelle l'homme mort. Hein. C'est un des morceaux les plus étranges, les plus impressionnants de l'art de Lascaux, cette figure humaine qui apparaît associée aux formes animales, qui se trouve dans ce qu'on pourrait dire le fin fond de la grotte, hein, dans le sein des saints. À côté de l'homme mort se dresse un poteau surmonté d'un oiseau, poteau qui, c'est l'abbé Breuil qui l'a fait remarquer, ressemble au poteau funéraire de l'Alaska. On est dans le puits de la grotte. Et à gauche de l'homme, une figure de rhinocéros qui s'éloigne, qui tourne le dos au combat qui aurait pu être fatal. Alors très vite, on va interpréter, on va dire attention, c'est très important. Jusqu'ici, on avait des animaux tout à fait séparés, tout à fait isolés, qui n'avaient, semble-t-il, aucun rapport entre eux, ou difficile à établir ce rapport. Et là, nous aurions peut-être l'amorce, l'esquisse d'une première représentation de scène. On peut dire que, à partir de là, ça nous amène à nous poser la véritable question, celle évidemment que se posent nos auditeurs, parce que là, Lorena vient de m'apporter une véritable pile de réactions que nous allons lire dans un instant. C'est la vraie grande question. Comment, admettons, peut-être par projection, c'est une très belle idée qui en tout cas explique bien des choses, mais pourquoi surtout ? Qu'a voulu représenter l'homme préhistorique sur les parois de ces grottes ? Eh bien cette question du pourquoi, je vais la poser pour vous à Jean-Jacques Lefrère.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous nous intéressons jusqu'à 14h sur Europe 1 au secret des peintures rupestres et Franck vient de faire le tri pendant la publicité de vos messages.
Parce qu'alors il y a vraiment une avalanche de messages sur Avis, moi, ça prouve que ça fait réagir. La plupart des auditeurs sont très positifs, d'ailleurs certains sont critiques. Alors Dominique notamment nous dit, il fallait tout de même être très bon artiste et avoir des matériaux appropriés pour réaliser ces fameuses statuettes à partir desquelles seraient réalisées les ombres. Et comment, demande-t-il ou elle, c'est Dominique donc je ne sais pas, et comment fabriquer des cornes et des pattes sur un corps de vache de quelques centimètres.
Oui, encore une fois, ces hommes-là avaient des dons artistiques, on ne conteste pas. Faire des figurines, par exemple, le fait qu'on en ait retrouvé atteste de leur art là-dessus. Simplement, une chose est de faire une figurine d'un animal que l'on voit tous les jours, etc., pour lequel on a du temps, on est au jour, à l'air, on peut sculpter du bois, de l'argile, etc. On peut même choisir dans la tribu celui qui a un petit don manuel là-dessus. Autre chose est de dresser dans une caverne profonde avec une lampe très faible une silhouette d'animal de 3 mètres. Donc ce sont deux formes d'art là-dessus. L'une a servi à l'autre sur le plan du procédé, mais encore une fois, ces hommes étaient tout à fait capables de réalisation.
Bon, ok pour les figurines, nous dit Alain, mais alors pourquoi pas de formes humaines ?
Alors, effectivement, c'est là vous avez cité tout à l'heure la fameuse silhouette humaine du puits de Lascaux, qui est souvent citée parce qu'elle est exceptionnelle. On connaît qu'elle pratiquement.
Quasiment unique, oui.
Elle est unique, donc on la met toujours au premier plan, mais en fait, elle est anecdotique parmi l'ensemble. Pour le reste, ce sont des milliers
et des milliers.
Les figures du
Mont Bégo, mais enfin, c'est tout à fait autre chose.
Oui, c'est tout à fait autre chose, oui. Mais partout ailleurs, ce sont des figures d'animaux, toujours de profil, avec les caractéristiques qu'on a définies. Donc en fait, la question « pourquoi ces animaux ?» nous amène à la question du « pourquoi ces dessins ?»
Alors voilà, pourquoi ces dessins ? Alors j'avais d'autres questions, mais vous avez raison, allons tout de suite à l'essentiel.
Alors au sujet.
Pourquoi c'est c'est vous qui me rappelez à l'ordre, mais vous avez raison, il reste peu de temps, il faut venir à ça. Vous avez, vous, une théorie très intéressante. Alors là, disons clairement qu'on passe, la première partie du livre
raconte... On passe de l'objectif à l'hypothèse.
La première partie du livre explique comment
absolument.
Ça a pu être fait,
et là
c'est très
convaincant. La première partie du livre explique le procédé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a publié ce livre, c'est pour ça également qu'on a mis un petit film sur YouTube,
mais
pour que les gens voient ça.
La fin émet une hypothèse, mais là on n'est plus que dans l'hypothèse.
Alors, nous sommes dans l'hypothèse, et moi j'ai été assez surpris des réactions des lecteurs. Encore une fois, j'écarte les préhistoriens pour les raisons qu'on a évoquées, mais par exemple des lecteurs qui sont des plasticiens ou des artistes ou des scientifiques et qui ont lu le livre disent « bon, le procédé c'est démontré, c'est objectif, c'est imparable, mais votre hypothèse nous paraît tellement convaincante qu'on ne voit même pas ce que ça pourrait être d'autre. Je serais plus prudent, c'est-à-dire encore une fois, scientifiquement, nous soumettons cette hypothèse, elle n'est qu'une interprétation. On ne va pas faire durer le suspense, on va dire le pourquoi. » Alors. Je serai très bref là-dessus, il faut juste revoir ce qu'était l'homme préhistorique de l'époque. C'était des tribus nomades qui se déplacer sur la Terre en fonction des climats. Elles étaient itinérantes. Il arrivait qu'il y ait des décès, on enterrait le mort sur place, etc. Et l'idée qu'un mort soit enterré comme ça dans l'errance sur le chemin et qu'il ne reste rien comme souvenir, un marin perdu, aujourd'hui un ex-voto, devait sûrement préoccuper ces hommes-là.
Vous avez employé le mot. Ce que vous nous dites, c'est que ces figures pourraient être des ex-voto, c'est-à-dire des évocations souvenir, etc. d'un mort ou
et
de son esprit.
Et quand la tribu revenait dans la saison dans la région des grottes à la belle saison, eh bien, un des rites était d'aller dans la caverne et de remplir le mur avec une figurine, une sorte d'ex-voto de
cette
souvenir, en utilisant le clan, le symbole du clan.
Vous nous dites que ces figurines pourraient être l'emblème de chaque clan. Alors, il y aurait le clan des bisons, le clan des chevaux, le clan des vaches.
Les sociologues qui ont travaillé sur la préhistoire l'admettent tout à fait. Les tribus vivaient en clans, qui étaient d'ailleurs assez réduits en nombre. Dès que ça devenait trop important, ils se scindaient en deux pour des raisons de survie. Et donc, c'était une démarche un peu religieuse de mémoire. Il y a une chose qui est capitale là-dessus, c'est que cette pratique des grottes ornées s'arrête net à un moment, la déglaciation. Quand l'homme cesse d'être itinérant et devient sédentaire, à ce moment-là, il a ses villages, il enterre ses morts sur place, il peut leur porter le culte des morts, il n'a plus besoin d'aller dans les grottes.
Et alors là, on pourrait d'autant mieux comprendre que certaines des figures se chevauchent les unes les autres, etc. Puisque s'il s'agit simplement de fixer quelque part le souvenir d'un mort, ou d'évoquer son esprit en quelque sorte, c'est presque comme un, si j'ose dire, mais c'est presque comme un coup de tampon en quelque sorte.
Et d'ailleurs, nous ne procédons pas différemment dans nos cimetières. Où les concessions vieilles de trois siècles sont effacées, mises ailleurs, etc.
On fait des cénotaphes.
Sans place. Absolument, tout à fait.
Et donc ce seraient des cénotaphes.
Ce serait une sorte de... Alors il y avait peut-être aussi, dans l'esprit de ces hommes-là, les peurs que nous avons aujourd'hui du noir, des fantômes, etc., que l'esprit des morts vienne les hanter. Et le fait de les fixer sous la forme symbolique dans une grotte était aussi une manière de fixer dans le royaume de l'ombre, dans le royaume de la mort, ces esprits pour qu'ils ne viennent plus hanter les vivants. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais si nous reconnaissons une constante dans toutes les civilisations humaines, il y en a une, c'est le culte des morts. Et souvent, ce qui nous reste des civilisations perdues, d'ailleurs, sont les tombeaux d'Égypte, etc. Donc, de ces hommes préhistoriques, finalement, ces images de Lascaux qui nous fascinent tant, est-ce que ce n'est pas ça l'explication ? C'est-à-dire, pour eux, c'est l'image, on va dire, de nos aïeux, symbolique.
Voilà. Une image éternelle et qui nous fait encore aujourd'hui rêver. Je suis archéologue, écrit Morgane, et jusqu'ici, je n'avais jamais lu chez un spécialiste une interprétation qui m'ait convaincu. Le terme d'artiste m'est d'ailleurs toujours paru comme inapproprié, tout comme il m'a toujours semblé curieux cette habitude des préhistoriens de faire passer dans le domaine du rituel tout acte non compris. Pour la première fois, voici une explication qui me semble crédible et, à laquelle je serais tenté d'adhérer, écrit-elle. Et puis, vous avez fait des adeptes, puisque nous avons un message sur Facebook qui dit « Une grande découverte digne des plus grandes, même simple et terriblement efficace, qui remet en cause tout ce que l'on croyait sur ces peintures rupestres. Merci pour cette belle émission. » Alors vous êtes nombreux à nous remercier, tant mieux, je suis ravi. Sonia nous dit « Hier, vous nous révéliez une énigme digne de roman. Aujourd'hui, cette émission me donne envie d'essayer le merveilleux procédé préhistorique avec mes enfants. » Et j'ai envie de dire « Mais vous verrez, demain, ce sera encore bien plus extraordinaire. » Demain, nous allons vous faire rêver avec une très belle énigme aussi, peut-être une des plus étonnantes de toute notre histoire moderne. Revenons un instant à la préhistoire, la plus vieille énigme de l'humanité. C'est un ouvrage de Bertrand David et Jean-Jacques Lefrère. Vous avez compris que je vous le conseillais. C'est une explication tout simplement lumineuse pour un phénomène qui fascine, je crois, à peu près la planète entière, même s'il est concentré essentiellement à l'Europe, ce phénomène. C'est publié chez Fayard, la plus vieille énigme de l'humanité. Merci beaucoup, Jean-Jacques Lefrère.
Merci beaucoup.